première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Par où dire ? Je me disais, tiens, nous les apiculteurs, on a besoin aussi quelqu'un où on peut aller se prier pour toutes nos misères. Ici, la Madone, c'est plutôt une Pietà. Elle a une petite tête, une reine d'abeille. Elle a une petite tête d'une Madone italienne, 17e. Alors, elle tient une ouvrière, une abeille morte dans ses bras, qui a été butinée sur des fleurs empoisonnées sûrement. Ce sont des abeilles mortes aussi, qui sont restées accrochées. Le miroir, c'est pour avoir un reflet avec nous. Pour voir que nous, on est responsables dans toute cette histoire, finalement. C'est vraiment une petite chapelle pour venir prier, pour méditer sur notre sort, le sort de l'abeille.
Mais on peut changer les choses.
Bien sûr. Ici, à Bruxelles, avec la Société Royale d'Apiculture, je me suis retrouvé dans une famille d'apiculteurs formidables. Ce sont des gens vraiment des ambassadeurs de la nature, de la diversité, qui sont ouverts à faire quelque chose. À côté de leur rucher, ils ont des abeilles, bien sûr, mais ce sont les premiers à être témoins, à remarquer comme ça va mal dans la nature. Donc, ils sont pour la préservation de toute la nature, pour que, pas que les abeilles vont bien, mais que nous, on fasse aussi attention et qu'on va mieux aussi.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Les places de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez voir ça, Kim.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique, me tento, tonstelle.
Le monde invisible.
On monte sur le toit du Sénat, 5e étage.
Jacques Dujardin, le dernier apiculteur. Une exposition qui se tient au centre Brueghel à Bruxelles jusqu'au 30 juin. Des objets volants bien identifiés.
Et abrités dans de belles maisons imaginées par Jacques Dujardin.
Avec Christine Rigaud, Yves Van Parijs, Paul Brasseur, Léa Lambert, Gaëtan Noël, Nathalie Dacosta Maya et Jacques Dujardin. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est produit par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Je suis un apiculteur bruxellois depuis bien longtemps.
Et vous travaillez toujours sans uniforme, sans protection ?
Ah non. Ici, c'est simplement pour frimer. Non. C'est beaucoup plus prudent de travailler. Mais je connais bien les colonies ici, elles sont vraiment super douces. Mais c'est mieux de se protéger quand même, hein, toujours. Voilà, mais ici, elles sont vraiment extraordinairement calmes. Ça fait depuis 3 ans maintenant. C'est la 4e saison qu'on est ici. Elles sont vraiment d'une douceur. En plus, la reine qui était là était l'une des doyennes de Bruxelles, puisqu'elle avait déjà plus de 4 ans. Et donc, elle a été remplacée en fin d'année dernière, mais donc tout doucement, comme ça, en toute discrétion, elle a été remplacée par une nouvelle reine, donc sans essaimage, rien du tout. Donc, ça s'appelle une super cédure, donc c'est simple remplacement de la reine. Et donc, c'était sans doute la doyenne des reines bruxelloises ici.
Oui, Ivan Pareis, qui est l'apiculteur des ruches du Sénat. Parce que Jacques est l'artiste qui a fait les ruches, mais Ivan Pareis, c'est celui qui s'occupe des abeilles au quotidien.
De décrire l'œuvre de Jacques Dujardin.
Les trois couleurs nationales, certainement, d'une manière beaucoup plus abstraite que prévue, des alvéoles rouge et noir sur un fond jaune sur la première, et puis une version beaucoup plus abstraite de la végétation florale en fait.
Gaëtan Noël.
C'est une abeille sélectionnée depuis un paquet d'années pour divers facteurs, surtout pour sa production, son calme, et elle tient excessivement bien le cadre, donc elles sont très cool avec les apiculteurs. D'ailleurs, on est là, on est combien ? 3 mètres des ruches, il y a 3 ruches, on est relax, il n'y en a pas une qui vient nous embêter, on est vraiment tranquille. Quoi. Elle n'est pas connue, la Buckfast, pour sa résistance à l'hiver, elle doit être nourrie, elle n'est pas très prévoyante, mais sinon c'est une chouette abeille.
Les abeilles travaillent. Je ne m'attendais pas du tout à trouver une espèce de petit jardin sur le toit du Sénat, un peu champêtre, avec des fleurs que j'identifie pas. Toi, Gaëtan, tu sais, ciboulette en fleurs. Magnifique.
C'est l'uniforme de l'apiculteur, exactement. Blanc, ou à peu près, large. C'est pas mal, c'est plus confortable pour travailler. Avec une petite visière à l'avant pour voir tout ce qu'on fait et qui permet en même temps de se protéger des piqûres des insectes.
Paul Brasseur, la communication du Sénat. Écoutez, le Sénat est une assemblée législative au même titre que la Chambre des représentants. On fait des lois et le Sénat fait surtout des rapports d'information. Il fait des rapports d'information avec les sénateurs qui sont en fait issus des communautés des régions pour la plupart. Et donc c'est en fait une manière de dialoguer avec l'ensemble des entités fédérées du pays au niveau parlementaire. Donc c'est très utile surtout dans notre pays compliqué. Il y a 60 sénateurs, dont 50 issus des communautés des régions et alors 10 cooptés.
Qu'il soit fédéral, régional, communal, CPS, on a des conventions, notre association, donc Bruxelles Mabeille, a des conventions avec toute une série d'institutions publiques. Et alors, il y a énormément de nos apiculteurs qui ont également des ruches dans leur jardin ou chez des voisins, enfin, peu importe.
Bah écoutez, les ruches sur le toit, bah, ça fait partie d'une institution un peu soucieuse, je dirais, de l'avenir des générations futures. C'est se dire aussi que nous, en tant qu'Assemblée législative, on peut aussi ajouter une petite pierre à l'édifice du développement durable.
L'apiculture à Bruxelles, elle existe depuis 1700 hein, de manière relativement intense. Le phénomène plus récent, qui est un peu un phénomène de mode,
Yves Van Parijs,
est lié certainement à l'énorme médiatisation de la mortalité des abeilles. En réaction à ça, ben, les gens ont voulu quand même faire un acte pour protéger l'abeille, pour protéger l'environnement, pour protéger la nature. Et alors on a très fort médiatisé certains projets un peu emblématiques, comme ici au Sénat. Et malheureusement, il y a aussi eu un peu des petits dérapages qui étaient plutôt des greenwashing. Du greenwashing, donc des firmes, voire même aussi des institutions publiques, mais surtout des firmes privées qui, pour se donner une petite teinte verte, trouvaient ça assez original de louer les services d'un apiculteur et d'en faire une grande promotion. Et je crois que c'est surtout ça que peut-être qui a fait, peut-être malgré tout, un peu de tort à l'abeille. Et donc nous autres, notre association, donc Bruxelles Mabeille, n'est jamais rentrée dans ce phénomène de mode. Lorsqu'on a une relation, et c'était le cas ici au Sénat, lorsqu'on a été invité à venir dialoguer avec le Sénat, on a été vraiment séduit par le projet global qu'il y avait ici. Donc c'était non seulement une rénovation de fond en comble d'un vieux bâtiment quand même, et qui sont parvenus à un coefficient énergétique tout à fait extraordinaire pour un vieux bâtiment, puisqu'ils sont au niveau B, si je ne m'abuse. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et puis, dans cette démarche-là, ils se sont dit, tiens, ce serait sympa de faire une toiture verte que vous voyez ici, avec tout l'intérêt écologique que ça représente. Et puis ils se sont dit, tiens, peut-être cerise sur les gâteaux, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas contact avec une association d'apiculteurs ? Peut-être, et ça, ce serait encore le top du top, d'avoir un apiculteur du quartier, hein, ce qui a été le cas depuis le début, en fait. Hein. Et voilà, donc on a conclu cette convention. Et ça rentre vraiment dans un processus global. Donc là, on sort complètement du greenwashing. C'est vraiment une volonté avouée, politique peut-être, une volonté politique dans une démarche qui est vraiment environnementale, mais au sens noble. C'est pas vite aller coller quelques petites ruches parce que c'est dans l'air du temps. Ça, de toute façon, nous ne sommes pas dupes et nous ne marchons pas dans ce genre de combine.
Il y a une belle activité.
Oui, oui, oui.
Voilà, là, on est en train d'ouvrir.
La hausse a l'air bien remplie.
En tout cas, il y a une belle activité dans la hausse, clairement.
Oui, oui. Elle est prête à être operculée.
Ouais, elle est déjà ici. Moi, je la vois operculée déjà. Mmh. Et là, je la vois operculée aussi. Oui. Tu veux qu'on soulève un cadre ?
Operculée, oui, tout à fait. C'est-à-dire que les abeilles, quand elles ferment les petites cellules hexagonales des cadres, que la cellule doit être fermée pour une raison ou pour une autre, on dit qu'elles operculent, c'est-à-dire elles déposent une très fine couche de cire dessus, ce qui permet de la rendre étanche. Elles font ça dans tous les cas, que ce soit pour fermer une cellule dans laquelle une larve va grandir, ou pour fermer une cellule lorsqu'elles ont stocké du miel et qu'elles estiment qu'il est correct, mangeable, donc au bon ton d'humidité. Donc c'est une fermeture. Une fermeture de cadre, complètement operculée, intégralement. C'est juste parfait. Voilà. Elles ont très très bien bossé. Une belle récolte en perspective.
Et on prend un cadre. Il est grand temps qu'on met une hausse.
On soulève un deuxième cadre de rive sur la première hausse et il est plein aussi. Oui, clairement, elles ont besoin d'une deuxième hausse. Voir, il est déjà un peu tard au vu des floraisons dans le parc. 100% operculé et rempli, c'est juste parfait. Un peu de miel qui coule. Ouais, je rapproche le micro pour essayer de choper les abeilles.
Regarde, ils ont construit jusque sur la grille à rennes en dessous.
Ouais. Clairement.
Ils sont vraiment très douces.
Elles sont excessivement douces, elles tiennent très très bien le cadre. Quoi. C'est vraiment incroyable.
On va pas ouvrir
on va pas aller plus bas en... ouais, non.
Parce qu'il faudra alors ça il faut un fumoir.
Magnifique, je récupère.
Les conditions actuelles sont vraiment extrêmement favorables pour les abeilles. Il y a beaucoup d'humidité malgré tout. Il y a de la chaleur, hein, une douceur. Comme aujourd'hui, bah, il fait légèrement nuageux, mais 21 degrés. Donc ça, c'est vraiment les conditions idéales. Quand il y a de l'humidité, les plantes produisent beaucoup de nectar. Les abeilles sont spécialisées dans les grands ensembles. Elles ne vont pas tellement aller butiner comme ça des petites fleurs plic-ploc, mais elles vont plutôt aller rechercher les grands ensembles, donc les arbres, les alignements d'arbustes, par exemple. Donc ça, c'est vraiment leur spécialisation. Donc quand il y a des pelouses fleuries, ce que nous autres, on incite à aménager, bien évidemment. Ça, c'est davantage favorable pour les insectes sauvages. Hein, donc, tous les pollinisateurs autres que l'abeille mellifère.
Ce parc face auquel nous nous trouvons, les essences, vous savez lesquelles c'est ?
Il y a certainement du tilleul, de l'érable. Je vois un acacia, le vert clair, là, qui est d'ailleurs en floraison maintenant. Il y a des tilleuls qui vont bientôt commencer à fleurir et donc qui vont se succéder. Et donc on a vraiment, quand on a des arbustes en grande quantité, comme par exemple le noisetier qui lui fleurit très très tôt au printemps, et vous avez encore du lierre qui fleurit très tard en été, même en automne. Et donc on a vraiment ici à Bruxelles une richesse dans la floraison, une diversité dans la floraison qui permet vraiment d'étaler les récoltes, non pas de miel spécialement, mais de pollen et de nectar pour les abeilles. Donc elles ont vraiment une nourriture qui est étalée sur l'ensemble de la saison.
Mais je pense qu'il s'est découvert, artiste performeur finalement, un peu sur le tard. C'est en 2014 qu'il a commencé ce travail autour des abeilles. Comme il a réalisé les ruches qui sont installées sur le toit du Sénat, il a installé un rucher aussi qu'il a complètement conçu pour le parc design derrière Tour et Taxi. Il a fait un hexagone avec dans chaque pan de l'hexagone une ruche. Et donc assemblées, elles font un rucher qui a été transporté module par module, tiré à vélo à travers tout Bruxelles.
Christine Rigaud.
Jusqu'à son installation au parc design. Ce transport a été une performance avant l'installation, ça c'est clair.
Il n'y a peut-être pas de pollution avec des produits phytosanitaires de l'agriculture à Paris, bien que ceci est petit à petit remis en question par des analyses assez fines. Et aussi, on se rend compte qu'il y a des nuages vraiment de polluants agricoles qui sont en train de pénétrer très très fort dans les villes malgré tout. Malgré cela, on peut quand même dire que les villes sont un peu protégées, bien sûr, de ce genre de pollution, donc avec des produits. Quoique le particulier ose parfois bien badigeonner ses rosiers d'insecticides parce qu'il a vu trois pucerons dessus, ce qui est tout à fait à proscrire, bien évidemment, et qui fait énormément de tort à l'ensemble des insectes. Par contre, en région bruxelloise, comme dans les villes, nous avons quand même d'autres types de polluants, des polluants atmosphériques. Maintenant, nous avons fait faire des analyses en 2004-2005 où on constate un taux de polluants atmosphériques extrêmement bas, mais vraiment très très bas au niveau des miels. Je parle bien des miels, je ne parle pas du pollen ou de la propolis qui peut aussi être récolté, mais bien du miel. Donc des taux extrêmement bas de polluants atmosphériques. Donc je peux imaginer que ce sera la même chose à Paris. Malgré tout, cette pollution atmosphérique pourrait peut-être bien influencer la santé des abeilles mellifères, mais également de tous les insectes pollinisateurs, quels qu'ils soient.
HLM pour abeilles, une ruche à étage.
Multicolore, hein ?
Oui.
Comme une fête.
On va vérifier maintenant le cadre témoin, et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une spécialité bruxelloise. Donc l'origine du cadre témoin vient vraiment d'un apiculteur bruxellois qui a mis ça au point. Et on se rend compte maintenant, par la pratique un peu moderne de l'apiculture, que ce cadre témoin nous enseigne énormément de choses. Donc régulièrement, on le découpe. Et tant qu'il est bâti, et parfois très rapidement par les abeilles, ça veut dire que la fièvre d'essaimage ne s'installe pas à l'intérieur de la colonie. Alors qu'est-ce que c'est la fièvre d'essaimage ? C'est une volonté tout à fait naturelle, normale, souhaitable d'ailleurs, de la colonie à un moment, de se diviser en deux. C'est la vraie multiplication en fait de l'abeille mellifère. Et donc elle souhaite se diviser en deux, voire en trois, parce qu'elle estime que les conditions sont favorables pour se multiplier. Et dans un premier temps, c'est l'ancienne reine, la vieille reine, la mère, donc de toutes les abeilles qui sont là, qui va s'en aller avec la moitié de la colonie. En ville, c'est pas souhaitable qu'on voit se trimballer comme ça des essaims, ça fait peur aux gens, même s'il n'y a pas de danger réel. N'empêche que ça provoque quand même de l'inconfort chez les gens quand ils viennent s'installer dans une cheminée ou sur le pare-brise d'une voiture, c'est quand même pas tout à fait top. Et donc, on essaye, nous, apiculteurs urbains, on essaye vraiment d'anticiper l'essaimage, donc de vérifier régulièrement à l'intérieur du corps de la ruche, voir s'il n'y a pas la formation de cellules royales. Si on l'observe, alors à ce moment-là, on va diviser nous-mêmes, avant que la nature le fasse, on va retirer la reine avec une partie des abeilles et on va la mettre dans une petite ruchette.
Yves Van Parijs.
Et donc ici, on voit qu'en une semaine à peu près, elle a bien bâti le cadre témoin. Donc normalement, statistiquement, je dirais, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes actuellement dans la colonie. Mais une petite visite à l'intérieur est toujours préférable. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre celle-là.
On va regarder. Hein. On a vu que celle-là était plus forte.
Playmobil fait aussi des apiculteurs et des ruches.
Pour mettre des caves vides, comme ça, elle peut. les plantes hein, qui fleurissent, là, les différentes plantes, ce ne sont pas des abeilles qui sont présentes. Il y en a bien une là qui se balade, mais elle est à peu près la seule. Mais ce sont des bourdons. Différentes sortes de bourdons, d'ailleurs.
Et le bourdon n'est pas le mâle de l'abeille?
Non, c'est le faux bourdon. C'est une terminologie vraiment très malheureuse et qui prête à confusion. Mais les bourdons, c'est vraiment une sorte tout à fait à part par rapport à l'abeille mellifère. Et le mâle de l'abeille mellifère, il s'appelle le faux bourdon.
Et puis ici, on a quelques photos du parc design et l'installation de ses ruches et de son travail d'apiculteur avec sa ruche sur le dos qui part à travers Bruxelles. On le voit dans le métro ici, au cinquantenaire. Ça, c'est de nouveau des photos des ruches tractées à travers Bruxelles et de l'installation au parc design où ce sont des locaux qui font l'entretien des ruches.
Ouais, on va une fois jeter un petit coup d'œil. On regarde, on voit aussi qu'elle est très très active dans la hausse et à mon avis, cette hausse elle est tranquille. Alors on enlève un cadre. Ici ce cadre de hausse est quasi plein. Donc il faut savoir comme ça que sur un cadre, il y a un peu plus que 1 kg de miel qui est stocké.
Donc on est dans l'enfance, le jeu, hein?
Oui,
le
oui, jeu. Oui, tout à fait, tout à fait.
Le ludique.
Oui.
La toute première chose, c'est que nous allons fêter nos 125 ans d'existence. Donc ça fait 125 ans que Bruxelles Mabeille, qui anciennement s'appelait Société Royale d'Apiculture de Bruxelles et ses environs, a été fondée. Ça mérite quand même de fêter la chose. Et ensuite, ben malheureusement, on va un peu parler de la mortalité qui a été tout à fait exceptionnellement grave cette année-ci en région bruxelloise. Donc on a atteint un pic jamais atteint.
Outre Jacques Dujardin, apiculteur, c'est un artiste qui travaille avec de la matière vivante, je crois.
Toujours. Il a deux grands-pères, un grand-père agriculteur et un grand-père boucher. Donc il a commencé à travailler la viande, la crépine. La crépine, c'est cette membrane graisseuse qui enveloppe nos viscères et dont on enveloppe le pâté parfois et dont il fait vraiment de la dentelle collée sur des carreaux ou des vitres. Et puis le gazon aussi.
On peut parler de la densité de population, de la densité des ruches qu'il y a en région bruxelloise. Aussi, on peut parler de l'évolution de l'apiculture. L'apiculture qu'on a maintenant n'est plus du tout la même que celle qui était encore pratiquée il y a une trentaine d'années. J'ai vécu cette évolution puisque je suis, moi, apiculteur depuis 1981, donc ça fait 37 ans déjà, c'est ma 37e saison. Et donc, j'ai vraiment vu cette évolution petit à petit. C'est devenu plus technique, c'est devenu plus complexe à cause des maladies que nous constatons parmi les abeilles.
C'est vraiment quelqu'un qui est terriblement enraciné dans son terroir. Donc il a utilisé aussi beaucoup de cadres qui font 50-50 avec un encadrement métallique, qui sont des carreaux de serre. Le serre à raisin, il habite Tervuren, voilà. Donc c'est vraiment ancré dans ce terroir bruxellois.
Alors l'association compte à ce jour 426 membres exactement, dont un peu plus que 50% ont leur ruche à Bruxelles. Alors ça fait peut-être beaucoup d'apiculteurs dans le temps, et je parle de fin aux environs de l'après-guerre, comme ça, il y avait beaucoup moins d'apiculteurs, mais chaque apiculteur avait beaucoup, beaucoup plus de ruches. Il y avait un apiculteur gétois, par exemple, qui avait à lui seul plus de 200 ruches à Gette et dans les environs immédiats. Tandis que maintenant, la moyenne par apiculteur est à peine de 3 à 4 ruches. Donc beaucoup plus d'apiculteurs, mais finalement moins de ruches en région bruxelloise.
Donc la viande, le gazon, la crépine, les carreaux de serre, aujourd'hui les abeilles, tout ça est très logique finalement dans sa démarche.
Gaëtan Noé.
On va aller vérifier ce qui se passe dans cette ruche. On va regarder, on a mis une hausse. On arrive en fin de période de mielée de printemps. Et on va aller voir si elles l'ont rempli, comment elles l'ont rempli, et où est-ce qu'elles en sont dans cette opération-là de leur été.
Hop. Donc sur le radeau, il y a donc des caisses en bois fermées qui sont des ruches. Voilà. Et donc de là aussi, pour refaire le lien avec du coup la thématique de l'exposition, des pots de miel vides, toutes sortes de pots.
Et ça, ce sont les manifestations contre Monsanto. Il en a fait plusieurs, toujours avec sa tenue d'apiculteur, son masque sur la tête et sa ruche sur le dos.
Et les bidons sont jaunes. Donc il y a effectivement la thématique de l'abeille qui revient aussi. Donc les bidons sont jaunes, mais le fond, le sol, tout ce qui maintient en fait le radeau est noir. Donc on retrouve les deux couleurs. Donc à la fois, bon, jaune quand même pour retrouver un peu de joie quand même, si on peut essayer. Et le côté quand même sinistre de la situation avec le noir aussi.
Mais vous savez bien que le jaune est la couleur nationale de la Flandre.
Ah oui. Et oui. Donc c'est... Oui, exactement.
Il est plasticien de formation, de part.
Oui, il a fait les Beaux-Arts. Tout à fait. Oui, c'est rare, hein. Oui, il a quand même fait les Beaux-Arts. Tout à fait. Tout à fait. Et son métier, son gagne-pain aujourd'hui, il est restaurateur de tableaux. De tableaux, pas que, parce qu'il restaure des sculptures aussi. C'est vraiment un travail de restaurateur au quotidien. On verra dans l'exposition qu'il s'est remis à la peinture façon 18e, une espèce de clin d'œil à son métier.
Et qu'est-ce qui est encore positif?
Ah, ça c'est, je crois qu'elle... peut-être le petit tableau là.
Oui, qui appartient à la collection.
School van der Vuren. C'était un petit tableau dans le style 17e que j'ai fait l'année passée pour un concours de peinture, de paysage. Et alors, je me dis, tiens, je vais peindre de nouveau, comme à l'ancien. Et alors, ça représente donc un paysage 17e avec une perspective assez importante. Et quand on regarde bien au fond de la perspective, alors on voit la ville, l'industrie, en avant-plan l'apiculteur qui se trouve dans la forêt, style forêt Fontainebleau, superbe forêt à la recherche d'Arcadie. Et c'est un côté aussi plus positif.
Oui, et la ville et les industries, mais il y a aussi les fumées qui noircissent le ciel.
Oui, c'est la... bon, bien sûr, aujourd'hui on est confronté avec une énorme pollution. Et l'apiculteur, finalement, il est enfoui de tout ça. Il cherche des lieux plus intéressants où il peut vivre avec ses abeilles plus en harmonie, où il n'y a plus de maladies, pas de pesticides, pas de problèmes, où la nature peut se développer correctement.
Léa Lambert.
Une vidéo où une jeune femme avec une robe qui marche dans un univers complètement désertique, mais rempli de déchets. C'est une critique de nous, notre façon de consommer aussi aujourd'hui, où on consomme tout le temps très facilement, mais que ça ne va pas forcément rester comme ça, parce qu'on a besoin des ressources de base, notamment comme les abeilles. Sans les abeilles, nous n'existerons plus. La Madone des abeilles. Une femme qui porte dans ses bras une abeille, mais une abeille qui est morte. C'est une statuette blanche. On retrouve aussi des abeilles, des vraies abeilles, qui ont été disposées sur toute la petite sculpture, qui sont mortes évidemment. Et il y a vraiment ce côté triste. Voilà. Là, pour le coup, c'est l'humain qui tient dans ses bras la nature, mais qui meurt, en fait, tout simplement.
Un premier toit en zinc. Le couvre-cadre, on va le lever. Voilà. On fume légèrement. L'enfumage, ça permet de les calmer, de les prévenir qu'on va opérer à l'intérieur de la ruche. On soulève et là on remarque déjà qu'elles ont bossé très très bien.
À quoi voyez-vous, Gaëtan Noël, qu'elles ont bien travaillé ?
Eh bien, on avait mis dans cette housse, donc qui comporte 9 cadres, on avait mis 5 cadres vierges et 4 cadres bâtis. Et on remarque que maintenant, ils sont tous bâtis. Et bien bâtis. Légèrement moins les cadres de rive, mais c'est accessoire, vraiment.
Et quand vous dites cadres de rive ?
Les cadres qui sont sur le côté. On voit qu'elles sont encore en train de construire et que tout se passe à merveille.
Jacques Dujardin, il y a un côté au secours, non ?
Un côté dramatique, mais il y a une partie de l'exposition à la fin aussi qui est positive.
Deux statuettes, un homme et une femme, qui ont des têtes en forme de ruche. Une sculpture qui a été faite avec de la cire d'abeille. Deux petites statuettes qui se retrouvent surélevées sur une caisse. On retrouve vraiment là le côté apiculteur, mais l'homme et la femme sont nus. C'est vraiment l'association entre la nature de l'abeille et la nature de l'être humain, le mélange des deux, et que si nous n'aidons pas, nous ne sauvons pas les abeilles, parce que c'est notre rôle aussi, nous ne pourrons pas nous sauver non plus.
Eh bien, ici, il y a ces deux statues qui sont faits en cire d'abeille, qui représentent l'apithérapie.
Jacques Dujardin.
Ces deux personnages, une femme et un homme, ils sont avec leur tête dans la ruche et qui se regardent par le trou de vol de la ruche. Ils se regardent l'un à l'autre et ils sont en dialogue entre eux et avec les abeilles et la pollinisation de leur environnement. Donc, ils essayent d'être nouveau en harmonie avec la nature.
Les abeilles se concentrent principalement sur le centre de la ruche. Et donc, elles délaissent légèrement les cadres latéraux, sauf en cas de très très forte colonie. Ici, on voit bien, hein, les cadres sont remplis de miel. On voit le miel à l'intérieur. Et justement, ici, on parlait d'opercules tout à l'heure. Ici, ils ne sont pas encore operculés. Donc, on voit bien la différence. C'est que le miel n'est pas encore au beau ton d'humidité et que les abeilles n'ont pas encore décidé de fermer la cellule pour conserver ce qui s'y trouve. Et donc ici on travaille sur une abeille qui est extrêmement docile et qui reste très très bien sur le cadre. Voilà. Ici on remarque bien l'opercule. J'ai donc pris un autre cadre. Et on remarque bien qu'elles ont déjà operculé et par contre le cadre est rempli. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que la ruche a bien produit quand même. C'est une ruche de printemps, elle a été mise en route sur 6 cadres dans la ruche principale au printemps. Là elle est passée en foule depuis un certain temps, on a remis une hausse parce qu'elle allait très bien. Et on voit que maintenant elle a rempli une hausse complète. Elle n'aurait pas rempli une deuxième hausse, la première n'est pas encore bien remplie, mais elles ont vraiment bien travaillé. C'est une ruche qui va, d'ici peu, on va pouvoir extraire et donc récupérer le miel. Et à mon avis, on sera entre 10 et 15 kilos sur la ruche. Voilà.
L'apithérapie. Donc on met sa tête dans la ruche. On se fait un petit dialogue avec les abeilles qui te touchent, qui te sentent, qui te lèchent, qui te piquent pas, bien sûr.
Les têtes sont en forme de ruche. Ce
sont des abeilles très douces chez nous. Être tout à fait dénudées comme les naturistes à l'époque au 19e, le retour à la nature aussi, qui se dénudaient et qui se promenaient comme ça dans la nature.
Et ça renvoie à Adam et Ève aussi, non ?
Oui, bien sûr, là aussi. Et comme c'est une femme et un homme, avec un dialogue aussi important quoi, entre les hommes et les femmes. Quoi.
Alors le texte dit « Dialogue de l'être humain avec les abeilles et les pollens de toutes les fleurs et plantes afin de retrouver un équilibre avec la faune et la flore. »
De de nouveau ici un cadre que je viens de sortir, qui n'est pas operculé. Donc on est... On va encore attendre un petit peu pour récolter. C'est pas encore top top. On va encore les laisser un peu travailler. On n'est pas encore vraiment dans le trou de mielé. Je ne sais pas s'il y en aura un cette année-ci et s'il sera conséquent. On verra.
Léa Lambert.
Que le dialogue est perpétuel entre l'être humain et les abeilles, mais que surtout, là, il y a vraiment l'association qui est faite entre la tête de l'homme en forme de ruche et le corps de l'homme pour garder les deux aspects, en fait, de l'apiculture et n'en faire plus qu'un.
Et quand vous dites trou de mielé,
c'est une période à la fin du printemps où il y a moins de plantes normalement. Dans une année normale et idéale, on va dire, il y a moins de fleurs à butiner. Et donc pendant une période, une semaine, 15 jours, 3 semaines, il y a un trou de mielé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de miel qui se produit. C'est généralement ce moment-là qu'on essaye de capter. Juste avant le trou de mielé, on récolte, on leur remet une hausse vide, ce qui permet de continuer la récolte dans la foulée. Voilà.
Vous connaissez l'univers des ruches ?
Eh bien, je ne connaissais pas, en fait. C'est vrai que j'ai connu ici, avec cette exposition, c'est vrai que c'est un univers que je ne connaissais pas du tout.
Deux récoltes par an ?
En Belgique, normalement, deux récoltes par an. Ça dépend des régions. Certaines régions n'en font qu'une. Ils font un printemps plus long, ils récoltent au fur et à mesure, et ils enchaînent directement sur l'été. Ça dépend vraiment de la flore locale. Voilà.
Et pourquoi votre exposition s'appelle « Le dernier apiculteur » ?
Oh là, je vais peut-être un peu trop dramatique, mais je trouvais que c'était intéressant, que peut-être on peut arriver à un point qu'il y aura la dernière ruche. Et alors, c'est ce, l'apiculteur qui s'enfuit avec sa ruche sur le dos, mais qui se retrouve encore dans un paysage sinistré par le rondup. Vraiment, il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Et aussi à cause de son costume noir, c'est un peu un camouflage dans ce paysage noir aussi, pour ce, où il s'enfouit vraiment avec la dernière ruche qui reste sur la terre.
Une statuette en plâtre, faite par Jacques Dujardin, donc qui représente un apiculteur dans sa tenue et qui marche en fait sur des cendres d'abeilles. Et là, on remet clairement dans le contexte de ce que vit un apiculteur aujourd'hui, de ce sur quoi il peut tomber, malheureusement.
Vous êtes, vous, Jacques Dujardin, artiste et apiculteur.
Il faut toujours rester optimiste. On espère que ça va s'arranger. Les gens commencent à avoir un peu plus de conscience qu'il faut faire attention avec le peu qu'ils ont encore. Surtout en ville, je crois que les gens sont beaucoup plus consciencieux de peu de petits parcs qui restent et ils font beaucoup plus attention que dans la partie rurale où il y a l'agro-industrie qui, en fait, qui continue encore avec leurs pesticides et à faire nous empoisonner finalement.
Nathalie Dacosta Maya. Dacosta Maya. On a de la gelée royale, donc on va aussi faire goûter ça. C'est vraiment de nourrir les toutes jeunes larves pendant 3 jours et la reine pendant toute sa vie. Donc elle est nourrie essentiellement de ça par les jeunes abeilles qui produisent de la gelée royale dans une glande qui se trouve dans la tête de l'abeille et qu'elle donne à l'abeille par la langue. La reine finalement ne se nourrit pas seule, quoi. Elle est nourrie par les abeilles. Ça lui assure quand même une longévité puisque... Une abeille d'été vit 5-6 semaines, alors que l'abeille d'hiver peut vivre quoi, 5-6 mois. Mais la reine, elle peut vivre plusieurs années. Donc il y a un record de 8 ans. 8 ans, ça c'est quand même costaud. Mais chez nous, disons, c'est plutôt 2-3 ans, quelque chose comme ça.
Les politiciens, j'ai pas l'impression. Pour l'instant, la dernière... Quand il y a eu un vote à l'Europe contre le Roundup et certains pesticides, la Belgique s'est abstenue pour des raisons économiques, pour l'industrie du sucre de Tirlemont et pour les betteraves surtout, et alors pour le maïs, je crois. Parce que certains pesticides sont obligatoires pour l'agro-industrie et qui, soi-disant, ils ne savent pas faire sans. C'est une fausse excuse.
Différentes maladies qui sont observées. La mortalité se présente sous beaucoup de symptômes différents, donc probablement que ce sont des causes vraiment très différentes. Mais on ne parvient pas à mettre vraiment le doigt sur le ou les causes de manière très très précise. Donc c'est vraiment multifactoriel. Il y a beaucoup d'interactions de facteurs comme ça qui jouent.
Gaëtan Noël, que pensez-vous de ce que nous dit Yves Van Parijs ?
On sent un apiculteur d'une très très grande expérience, avec énormément de connaissances, un désir de bien faire énorme, un super apiculteur. Pas super dans le sens où il veut vraiment produire beaucoup, mais un super apiculteur dans ses connaissances et dans sa manière de diriger les ruches.
C'est certainement pas la qualité de l'apiculteur, parce qu'il y a vraiment des apiculteurs qui ont une très longue expérience et qui sont des gens extrêmement rigoureux, propres, précis dans leurs actes, et qui, malgré tout, peuvent avoir une année où ils n'ont zéro mortalité, et l'année suivante, ils perdent presque tout. Alors qu'ils n'ont changé aucune technique, que tout semble a priori comme ça rester constant, et tout d'un coup on aperçoit ce phénomène à la sortie de l'hiver. On va vérifier nos ruches et on voit 5 cm, un tapis de 5 cm d'abeilles mortes sur le fond de nos ruches. C'est assez désolant évidemment à voir quand on retire tous ces cadavres comme ça de ces ruches. Je vous assure, ça fait quand même un pincement au cœur. On a une relation malgré tout affective, nous sommes des passionnés. C'est notre petit monde, hein. Ce sont nos petites abeilles à nous, qu'on soigne le mieux qu'on peut avec les connaissances de la science actuelle. Et malgré tout, on se retrouve avec des choses tellement aléatoires qu'on ne comprend pas. Donc on se culpabilise, qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer. Mais finalement, on ne sait pas, on est encore tout à fait dans le brouillard le plus total à ce niveau-là.
En plus, ces sols sont pollués aussi. Comme ils reçoivent des doses assez importantes de pesticides, par après, le sol il est complètement pollué par les pesticides. Et si on veut mettre un engrais vert, style colza ou de la moutarde ou un autre engrais qui fleurit, quand les abeilles volent là-dessus, ils sont empoisonnés parce que ces engrais verts repompent
Jacques Dujardin.
Une partie des pesticides dans la fleur. Et les abeilles butinent là-dessus, et c'est comme ça, parfois, on arrive à voir tout un rucher qui est une fois mort, parce qu'ils ont tous volé sur le même champ qui est en fleurs, mais qui est empoisonné.
Ne serait-il pas quelque part héritier de Mass Moving ?
Ah ah, ça lui ferait plaisir, ça. Ouais, mais oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'inscrire cette exposition apiculture dans le cadre du 50e anniversaire de mai 68. Mais voilà. Donc, Jacques avait l'âge de faire mai 68 en 68. Et quand on a retrouvé les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, Ça leur semble bizarre, cette idée de manifestation et de protestation. Je trouve ça un peu curieux, quand même. Il n'y a plus du tout la même énergie. C'est très bizarre.
Voilà. Oui, cette idée de manifestation, de protestation, mais aussi ce caractère ludique dans des lieux publics.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est joyeux. Oui, oui. Alors que eux sont beaucoup plus noirs dans leur démarche. Hein. Et quand on visitera l'exposition, on va bien s'apercevoir que leur vision des choses, c'est beaucoup plus la fuite, l'échappatoire. Mais tout ça n'est pas très drôle. Effectivement, pas comique. Ici, il y a tout à fait un côté ludique. Oui, oui, c'est juste.
Un radeau. Donc un radeau qui est fait à partir d'éléments retrouvés dans la ville, en fait, des déchets urbains. Des bidons d'huile, des pots de miel vides, des vieilles caisses en bois, des planches de bois. Et donc tout a été rattaché de façon à construire donc un radeau qui serait difficilement transportable et qui permettrait une fuite vraiment difficile. Mais voilà, vraiment pour montrer qu'on peut trouver de tout et n'importe quoi au quotidien, dans les rues, et qu'on peut peut-être quand même construire quelque chose pour pouvoir s'évader aussi de cette société vraiment polluée.
Voilà, on a bien remarqué que toutes les eaux en Belgique sont polluées, et la plus grande partie du monde entier aussi. Surtout, tout va dans la mer. Et là, on a remarqué que c'est vraiment une catastrophe qui est irretournable. Et le plastique, bien sûr, avec des hormones synthétiques. Les poissons qui commencent déjà à faire des changements génétiques, comme l'homme aussi, soumis à des changements génétiques.
Perturbateurs.
Quand les apiculteurs discutent entre eux, souvent ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord sur des points de détail. Et ils ont chacun leur manière de faire, chacun leur manière de voir les choses. Je crois qu'ils ont surtout chacun leur biotope chez eux ou avec leur ruche, et qu'ils dirigent leur cheptel de la meilleure manière possible pour eux et pour les ruches. En parfait synchronisme.
Les migrants. Donc c'est vrai que c'est vraiment dans le contexte de notre situation politique actuelle, un message très symbolique pour remettre vraiment en contexte dans ce qu'on vit aussi et de ce que les gens vivent aujourd'hui.
Je me disais, tiens, nous les apiculteurs, on a besoin aussi quelqu'un où on peut aller se prier pour toutes nos misères. Ici, la Madone, c'est plutôt une Pietà. Elle a une petite tête, une reine d'abeille. Elle a une petite tête d'une Madone italienne, 17e. Alors elle tient une ouvrière, une abeille morte dans ses bras, qui a été butinée sur des fleurs empoisonnées sûrement. Ce sont des abeilles mortes aussi, qui sont restées accrochées. Le miroir, c'est pour avoir un reflet avec nous. Pour voir que nous, on est responsables dans toute cette histoire, finalement. C'est vraiment une petite chapelle pour venir prier, ou méditer sur notre sort, le sort de l'abeille.
Mais on peut changer les choses.
Bien sûr. Ici, à Bruxelles, avec la Société Royale d'Apiculture, je me suis retrouvé dans une famille d'apiculteurs formidables. Ce sont des gens vraiment des ambassadeurs de la nature, de la diversité, qui sont ouverts à faire quelque chose à côté de leur rucher. Ils ont des abeilles, bien sûr, mais ce sont les premiers à être témoins, à remarquer comme ça va mal dans la nature. Donc ils sont pour la préservation toute la nature, pour que, pas que les abeilles vont bien, mais que nous, on fasse aussi attention et qu'on va mieux aussi.
Jacques Dujardin, le dernier apiculteur, une exposition qui se tient au Centre Brockel à Bruxelles, jusqu'au 30 juin. Avec Christine Rigaud, Yves Van Parijs, Paul Brasseur, Léa Lambert, Gaëtan Noël, Nathalie Dacosta Maya et Jacques Duchardin. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est produit par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Je suis un apiculteur bruxellois depuis bien longtemps.